Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Anna Cabana est avec nous,
Julie.
Charles Consigny également, Géraldine Vosner et Christophe Barbier. Nous a rejoint également sur ce plateau Vincent Gautron, secrétaire de l'Union syndicale SGT-RATP. Bonsoir à vous. On va parler de ce qui se passe dans le ciel, des centaines de milliers de passagers dans le flou en Europe. Ils seront nombreux demain à ne pas pouvoir voyager malgré la levée d'un préavis de grève par le principal syndicat de contrôleurs aériens. Pourquoi ? Parce que le délai est désormais trop court pour reprogrammer les vols annulés par les compagnies. Un premier point d'abord, on ne sait pas ce qu'ils ont obtenu, ça c'est resté secret.
Alors, il y a une conciliation nocturne, donc la nuit dernière, entre 18h et 8h30 du matin, conciliation nocturne qui a abouti à un accord entre le syndicat majoritaire, donc chez les contrôleurs aériens, qui est le SNCTA, donc qui rassemble à peu près 60% des voix des contrôleurs aériens. Donc ce syndicat a passé un accord avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, mais aucune des parties n'a communiqué les détails et le contenu donc de ce protocole de sortie de crise. Point 1, ça a été un coup de théâtre que cette levée du préavis de grève, mais ce qu'on sait, et il faut le dire à nos téléspectateurs, ce sont les demandes de ce syndicat qui réclamaient donc 25% de hausse des rémunérations étalées sur les années 2023 à 2027. Donc 25% de hausse des rémunérations sur 4 ans. Voilà, ce sont les demandes. Alors, on finira peut-être par avoir des informations. Mais juste encore une remarque, en septembre dernier, quelques mois seulement, eh bien, le même syndicat promettait une trêve olympique, promettait de ne pas faire grève pour des raisons salariales d'ici à la fin des Jeux olympiques.
A priori, ça s'est maintenu. Ils maintiennent la promesse de ne pas faire grève pendant les Jeux olympiques.
Oui, sauf que là, c'était ne pas faire grève pour des raisons salariales d'ici à la fin des JO.
D'ici à la fin. Alors là, la promesse n'était pas tenue.
C'était ça, la trêve olympique. Et là, elle n'a pas tout à fait été tenue, chère
Julie. Pourquoi vous soupirez, Charles ?
Non, mais écoutez, moi, je pense aux gens qui ont besoin de voyager, certains pour des raisons professionnelles, d'autres familiales, d'autres qui ont le malheur de vouloir prendre des vacances ou d'en revenir. Vous avez 75% des vols qui sont annulés à Orly.
On 65% va aller voir d'ailleurs les prévisions.
Voilà, à Charles de Gaulle et à Marseille, 60% à Toulouse et Nice, 50% dans les autres aéroports. Et qui sont les auteurs de ce massacre ? Ce sont des gens qui travaillent en moyenne 32 heures par semaine et qui ont la retraite à 59
Alors,
ans.
Alors, vous savez quoi, Charles ? Justement, voilà. On va faire rentrer Lisa Hadef, parce que la petite musique qu'on entend, c'est des privilégiés qui nous embêtent, qui embêtent le monde. Voilà, c'est un peu la petite musique qu'on entend. Est-ce que vraiment c'est le cas ? Est-ce qu'ils sont si privilégiés que ça, Lisa Hadef ?
D'abord, je vais rappeler que pour être contrôleur aérien, il faut être titulaire d'un bac plus 2 avant de se présenter au concours de l'École nationale de l'aviation civile, l'ENAC, et ensuite suivre une formation de 3 ans minimum. Donc être contrôleur aérien, c'est avoir à minima un bac plus 5. Le contexte étant donné, commençons par la partie la plus souvent mise en avant quand on parle des avantages des contrôleurs aériens. Et je vous cache pas que l'information était compliquée à avoir, c'est sur les salaires. Quand on regarde les offres d'emploi pour devenir contrôleur aérien, la promesse de salaire pour un débutant tourne autour de 2 550 € par mois. Selon la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour les presque 4000 contrôleurs aériens français, le salaire moyen est de 5 000 € net par mois. Et selon le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens, à Roissy, là où les salaires sont les plus élevés pour les contrôleurs français, c'est 5 500 € net par mois et ça peut monter jusqu'à 9 000 €. Vient ensuite l'épineuse question de l'âge du départ à la retraite. Chez les contrôleurs aériens, le départ à la retraite est fixé à 59 ans et après le départ à la retraite, ces mêmes contrôleurs aériens perçoivent une allocation temporaire complémentaire pour combler un potentiel manque d'annuités cotisées. C'est à hauteur de 100% pendant 5 ans et ensuite ça devient dégressif. Le temps de travail des aiguilleurs du ciel est aussi un point intéressant. En moyenne, 32 heures par semaine, ce que nous disait Charles, et jusqu'à 36 heures en période de forte activité. La durée maximum de la vacation d'un contrôleur aérien, c'est de maximum 11 heures, avec un temps de pause qui doit être égal à 25% de cette durée de vacation. Pour faire plus simple, pour 32 heures de travail par semaine, il faut 8 heures de pause obligatoire. Et enfin, pour les vacances, la durée des congés dépend de l'organisation du temps de travail. Pour chaque jour travaillé, les aiguilleurs du ciel bénéficient d'un jour de repos en plus des 25 jours de congés payés. Ils travaillent parfois les dimanches et jours fériés de la même manière que les autres jours et n'ont pas droit au RTT. Et des jours supplémentaires sont aussi accordés en fonction de l'ancienneté. C'est un jour à partir de la 20e année, puis un jour supplémentaire tous les 5 ans.
Voilà. Bon, ça fait beaucoup réagir en plateau.
Oui, non, mais parce que c'est un scandale, ils n'ont pas droit au RTT.
Ben ouais, non.
Alors, Géraldine.
Ben ça, c'est ce qu'on a vu. Alors, c'est déjà très avantageux. Et ce qu'on a vu, c'est la théorie. C'est-à-dire que les contrôleurs aériens français, qui sont vraiment le mouton noir de tous les contrôleurs d'Europe, hein, ont un problème majeur de productivité. Mais depuis 20 ans, la moitié des vols en retard en Europe, c'est à cause, c'est dû au contrôle aérien en France. Donc ça rend dingue toutes les compagnies aériennes ailleurs. Et il y a eu une foule de rapports de la Cour des comptes, de la direction de l'aviation civile. La réalité, c'est qu'ils travailleraient plutôt 100 jours par an. Donc on est en dessous des 32 heures théoriques. Et c'est aussi là-dessus que portait leur mouvement de grève. C'est que il y a une réforme du ciel européen qui est prévue. Tout le monde dit aux Français,
bah, quand même, va falloir remonter,
il va falloir travailler un peu plus, parce que là, on ne peut pas s'en sortir. Ces problèmes de productivité, ils sont graves. Hein. À Bordeaux, il y a quelques semaines, il a failli avoir un mort d'homme, il a failli avoir une percussion entre deux avions, parce que justement, il y avait ce système, le contrôleur qui devait travailler, il n'était pas là. Parce que c'est assez fréquent chez les contrôleurs aériens. Le chef de bureau peut décider de finalement, j'estime qu'on a besoin d'être deux, rentrer chez vous, mais ils sont payés quand même. Donc il y a un vrai problème organisationnel qu'on n'arrive pas à régler, mais depuis vraiment, depuis 20 ans.
Et donc, je le rappelle, je vous donne la parole, Christophe, il y a cette refonte de la navigation aérienne qui est en cours dans le but d'accroître la productivité. Et qui permettrait d'absorber d'ici à 2030 une augmentation du trafic aérien de 20 à 30%. Eux, ils disent en gros, vous allez nous demander de beaucoup plus travailler, donc c'est logique qu'on demande une augmentation salariale de 25% entre 2023 et 2027.
Pas beaucoup plus travailler comme tout le monde. Je vais vous proposer une autre solution, mais je ne la recommande pas. En juillet 1981, Ronald Reagan, fraîchement arrivé à la Maison-Blanche, est confronté à une grève des contrôleurs aériens. Qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils sont 15 000 à se mettre en grève, c'est le syndicat PATCO. Ils réclament le statut des Français, 32 heures par semaine. Ronald Reagan leur dit, attendez, quand vous avez été engagé dans votre contrat, il est marqué que vous êtes des fonctionnaires fédéraux, vous ne pouvez pas faire grève contre le gouvernement, je vous licencie tous. Bluff, disent-ils, il les licencie tous. 11 000 immédiatement. Il les remplace par des militaires notamment, et puis par leurs superviseurs qui reprennent du galon. Il les a tous remplacés. Après, certains sont revenus au travail jusqu'en 1993. Il a fallu 12 ans pour que certains soient réintégrés. Les autres ont dû changer de travail. Je ne recommande pas cette brutalité ultralibérale qui fait déjà saliver d'envie Charles Consigny.
Absolument.
Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas Reagan, nous ne sommes pas dans les années 80.
De bon sens.
Mais je voudrais quand même que les contrôleurs aériens se misent à réfléchir quand même à ce qu'ils font. À ce qu'ils font, aux signes qu'ils donnent. 32 heures, dont 8 heures de pause, c'est-à-dire 24 heures de travail par semaine.
On rappelle que c'est quand même un métier à très haute pression, très lourde
responsabilité.
Oui, il y en a d'autres.
Attendez, vous croyez
qu'un médecin urgentiste, il peut se permettre de...
Un chirurgien et un aiguilleur du rail. Un aiguilleur du rail, il n'est pas sous pression. S'il fait une erreur, il n'y a pas des
alors justement, Vincent Gautron, je le rappelle, secrétaire de l'Union syndicale de CGT-RATP. Votre regard à vous là-dessus, quand vous entendez autour du plateau cette petite musique qui dit, franchement, ils ont quoi? Lisa nous le disait tout à l'heure, en moyenne 5 000 euros net par mois, ils ne sont pas à plaindre. Pour 32 heures par semaine.
Vous l'avez plus ou moins évoqué, c'est la responsabilité qu'ils ont. Non pas entre leurs mains, mais entre leurs yeux. Ouais. C'est combien de vies. Non, mais on peut prendre ça à la légère et dire oui, c'est un métier comme un autre.
Il y a les écrans, les ordinateurs, l'intelligence artificielle.
Mais je vous invite à quitter le plateau et à venir travailler un petit peu dans les mêmes conditions, d'avoir la même pression, les mêmes responsabilités. Et on en discutera.
Dans les autres pays, on n'est pas une bulle au milieu de l'océan. Donc tout le monde souffre, le martyr, et puis il y a que la France.
Mais on peut aussi faire toute l'économie française comme le modèle Ryanair. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de salariés en France, il n'y a que des auto-entrepreneurs.
Il y a des compagnies nationales dans le monde entier.
Le même modèle économique.
Ce sont les contrôleurs des autres pays qui n'en peuvent plus.
Ils sont,
français.
Géraldine, j'apporte une petite précision. Ils sont deux fois moins bien payés en France, quand même, les contrôleurs, que leur alter ego dans les autres pays européens.
Forcément, ils travaillent trois fois moins.
Est-ce que c'est vraiment le cas?
Mais évidemment, mais vous avez entendu ce qu'on vous a dit. Un jour travaillé, un jour chômé.
En plus des 25 jours de congé payé.
On a tous envie de faire ça. Non, franchement, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réaction du ministre des Transports. De toute façon, il est aux abonnés absents depuis qu'il a pris ses fonction sont...
Il a réagi, c'était très bien. Donc vous allez voir.
Il a expliqué qu'en tout cas, le contribuable n'allait pas payer. Il explique pourquoi peut-être qu'on peut l'écouter.
Ce qui mérite d'être précisé, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ce soit exact.
Voilà, ça va coûter des dizaines de millions d'euros. Lui, il dit non, tout va bien, le contribuable n'aura pas à mettre la main dans la poche, on écoute le ministre.
Si je prends l'accord du contrôle aérien, par exemple, la modernisation que j'évoquais, la réforme qui sera en cours pour améliorer la productivité du contrôle aérien, va être largement compensée par des gains pour les compagnies. Donc la réforme sera financièrement neutre, c'est-à-dire que la flexibilité qui va être apportée demain dans la réforme du contrôle aérien va bénéficier aux compagnies aériennes. Et finalement, le coût des demandes qui ont été obtenues par les syndicats va correspondre exactement aux gains que vont faire les compagnies aériennes. Donc au bout du compte, c'est financièrement neutre, à la fois pour le contribuable et pour l'usager. Et puis l'accord de la SNCF, c'est un accord d'entreprise. N'oubliez pas aujourd'hui que la SNCF est une entreprise privée et qu'elle doit donc effectivement être soumise à la concurrence et répondre à des enjeux de concurrence. Donc là aussi, le contribuable ne sera pas sollicité et ce sera à la SNCF effectivement d'être, j'ai envie de dire, suffisamment forte dans la concurrence pour pouvoir amortir les enjeux sociaux qu'ils ont envie de voir évoquer.
Vous souhaitiez réagir, Géraldine?
Ah non, mais quand j'entends la SNCF est une entreprise privée, mais quelle blague! Mais c'est juste, c'est impossible de dire ça. C'est une entreprise publique détenue à 100% par l'État. L'État, c'est-à-dire nous, les contribuables, avons récupéré sa dette, 35 milliards d'euros. Tous les ans, on rallonge plus de 3 milliards d'euros pour payer les retraites, des compléments de retraite.
Mais là, en l'occurrence.
Des roulants. Non, mais c'est délirant de dire ça.
Sur les demandes qui ont été obtenues par les contrôleurs, et dont on n'a pas le détail, et il ne les a pas révélés d'ailleurs, le ministre, il dit on ne paiera rien.
Parce que ça va coûter très cher.
C'est un peu à courte vue. D'abord, les voyageurs paieront. Pas forcément les contribuables, mais les gens qui prennent l'avion. Déjà. Et ensuite, pour l'attractivité de la France, c'est catastrophique. Je veux dire, on ne peut pas être un pays qui est indéfiniment en grève, indéfiniment à la traîne par rapport aux autres. C'est juste insupportable.
Indéfiniment en grève, excusez-moi, mais il y a combien de jours de grève là, depuis le début de l'année du contrôle aérien? Parce que voilà, on est dans le langage vraiment populiste, clair et précis, toujours de stigmatiser quelques catégories ici
oui,
ou là.
Oui, ceux qui mais sont tout peut, le temps en grève, mais cher peut, monsieur.
Mais ils sont en grève depuis combien de temps?
On dit tout le temps.
Ils sont en grève depuis combien de temps?
Mais quand c'est pas les contrôleurs aériens, c'est les contrôleurs SNCF. Quand c'est pas ceux de la SNCF, c'est ceux de la RATP. Excusez-nous, nous contribuables français, d'être un tout petit peu fatigués.
Parce que nous ne sommes pas des contribuables, nous, en tant que salariés des entreprises.
Plus exactement.
Excusez-moi, on n'est pas des contribuables, on ne paye pas.
Excusez-moi, mais entre ce que vous coûtez et ce que vous payez, je pense que vous touchez plus d'argent public que vous n'en versez, cher monsieur.
Deux choses,
excusez-moi.
Non, je pense pas. Et combien il y a d'entreprises privées qui fonctionnent avec de l'argent public, monsieur Consigny?
Il y a beaucoup d'entreprises privées qui, comme la SNCF, perçoivent environ 20 milliards, coûtent environ 20 milliards par an.
La SNCF est une entreprise publique et je pense que vous bénéficiez. En
de
tant
quoi
qu'usager, des investissements qui ont été faits.
Ah oui,
il y a peut-être une dette, mais c'est une dette de quoi? C'est une dette d'investissement.
Si je peux glisser des trains, vous avez des rails, vous avez des infrastructures. Je voudrais glisser deux remarques.
C'est pas sérieux de dire ça.
C'est pas un pays.
Mais c'est pas sérieux.
Je veux bien stigmatiser les gens, je vois pas qu'il y ait d'apport dans le débat.
Ne stigmatisons pas. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas qu'ils sont continuellement en grève. C'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un dialogue social qui se noue, qu'il y a une tension, la grève est le moyen rapide. C'est sans doute aussi une part de responsabilité des dirigeants, mais c'est la culture syndicale française.
J'entends ce qu'il faudrait, c'est qu'un jour, il y ait un vrai débat sur ce qu'est le dialogue social dans l'entreprise.
Et comment on peut le réformer et l'assouplir.
Et aujourd'hui, le dialogue social dans l'entreprise, il répond à une seule obligation. C'est l'obligation de moyens. C'est-à-dire, par exemple, les négociations annuelles obligatoires, vous êtes obligé de convoquer les organisations syndicales représentatives autour de la table. Vous n'avez pas une obligation de résultat.
Ouais, mais il n'y a pas de négociation, c'est une obligation de résultat.
Il y a quand même quelque chose.
Si, je vais vous dire pourquoi. Non, mais j'anticipe un peu, mais par exemple, prenons le volet des Jeux Olympiques à la RATP. Il n'y a pas d'accord global. Il y a un accord par secteur d'activité. Il y a une vingtaine de secteurs d'activité à la RATP. Il y a 20 à peu près accords, on va dire. Voilà. Que fait les directions? Elle convoque les syndicats représentatifs dans les différents secteurs. Elle arrive, elle dit, voilà, l'enveloppe s'étend, c'est comme ça. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, ça sera appliqué. C'est ça le dialogue social?
Vous trouvez sérieusement, monsieur, que dans ce secteur des contrôles aériens, vous trouvez que ça manque de dialogue social? Vous avez l'impression que les contrôleurs aériens, ils ont subi là une réforme thatchérienne qui fait que vraiment le social est un sujet
mais le dialogue
pour
social,
ces gens qui travaillent un jour sur deux, qui sont payés entre 5 et 9 000 euros par mois et qui sont officiellement à 32 heures et on comprend qu'en fait ils sont plutôt autour de 20. Ça, c'est des gens là, il faut se précipiter pour leur donner du dialogue social
mais,
à ces gens-là.
Monsieur Koussi, je vais vous citer quelque chose. Il y a pas si longtemps que ça, il y avait un mouvement social contre la réforme des retraites. Et c'est à ce moment-là qu'on entendait, c'était à l'époque, les nantis de la RATP. Vous savez, ces conducteurs de bus à 3000 euros par mois. Mais ils sont où aujourd'hui? On n'arrive pas à recruter. Et je comprends pas. Je ne comprends pas que des gens ne se jettent pas à la porte de la RATP pour venir, puisque nous sommes des nantis, travaillons peu, nous sommes très bien payés.
Mais en l'occurrence, la situation des contrôleurs aériens est différente.
On arrive à recruter.
Oui, il y a eu une pression aussi, il y a eu des réductions d'effectifs. Il y a eu une surcharge de travail.
Alors,
Il y a une surcharge de travail. D'avions à traiter, mais il n'y a pas que l'heure. Il y a le nombre d'avions que vous avez à traiter en un temps réduit. C'est tout ça à prendre.
Alors, enfin, on est avec
les anecdotes du monde du travail, c'est pas que ce qu'on vous raconte dans les petits dîners mondains. Hein. Excusez-moi,
mais il faut aller aussi.
On est là.
Vous voyez, donc.
Et je suis où, moi? Je suis comme tout le monde. J'ai fait ma journée de travail. Je viens aussi débattre. Et demain, je recommence ma journée.
On est avec quelqu'un d'autre qui a accepté de débattre avec nous ce soir. Marc Rochet, président du cabinet Aérogestion, ancien président d'Air Caraïbes et de French Bee. Merci beaucoup d'être avec nous. On le rappelle, les contrôleurs aériens, ils demandent une revalorisation de leur salaire de 25% étalée entre 2023 et 2025. Parce qu'à la refonte de la navigation aérienne, on leur demande d'accroître leur productivité face à une augmentation du trafic aérien. Voilà. Et eux, ils disent, en compensation, on veut une augmentation salariale. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tout cas, de cette revendication ?
Écoutez, le débat qui vient d'être tenu montre combien les choses sont passionnées. Je voudrais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tout cela en mettant en avant trois points. Le premier, sans doute le plus important pour l'avenir des contrôleurs, pour l'avenir de notre pays, sur le plan économique, c'est que le système de transport aérien, de contrôle aérien en France est en retard techniquement, qu'il a pris du retard sur la plupart des autres pays européens, et on appelle ça for flight, il faut le mettre à niveau. Donc c'est le premier sujet, parce que dans cette mise à niveau, on va effectivement, grâce à la technologie, améliorer la productivité, la façon de gérer la croissance du transport aérien. On va aussi améliorer la sécurité des vols, et c'est important. On va diminuer, soyons clairs, le pouvoir des blocages qu'ont les contrôleurs aériens en faisant grève, parce que quand on maille le territoire de différents centres de contrôle, on peut basculer le contrôle aérien de la ville de Toulouse en Allemagne ou le faire par la Belgique. Et évidemment, il y a des oppositions très fortes à ça, oppositions devant lesquelles les gouvernements précédents ont été extrêmement faibles. Il y a un deuxième sujet qui a été abordé, c'est effectivement comment on gère les personnels. Ils sont compétents, ils sont engagés, ils sont motivés. Bon, il y a le problème de leur durée de travail. Tout ce qu'on peut relever, c'est la façon, là aussi, dont l'État, à travers la Direction générale de l'aviation civile, gère ses personnels. Il les gère pas bien, soyons clairs. Il les gère à coup de décisions de blocage ou de déblocage. L'exemple que vous citez, à savoir que après 12 heures de négociation, on ne sache même pas ce qui a été accordé, eh bien le fait que personne n'est très fier de tout ça finalement, on va pas améliorer les choses, on va probablement continuer à faire ce qu'il ne faut pas faire, on va sans doute bénéficier à la fin de la modernisation nécessaire. Le digital, ça existe, l'informatique, ça existe, l'intercommunication entre les systèmes de contrôle aérien européen est nécessaire, incontournable. Les prises d'otages ne sont pas justifiées,
Là, vous parlez d'une prise d'otage, pour vous, c'est une prise d'otage des clients, des passagers.
Parce que quand vous avez un tel pouvoir, malgré d'ailleurs des dispositions sur le service minimum, sur la loi d'hier qui s'applique pas tout à fait encore aux contrôleurs aériens, vous bloquez des clients, c'est très important, avec pas de possibilité de report, vu les chiffres que vous avez cités. Vous bloquez des compagnies aériennes qui sont pas forcément en très bonne santé, et vous bloquez l'économie française. L'économie française, en ce moment, elle a pas besoin d'être bloquée. Elle a besoin d'être dynamique, elle a besoin d'assurer son avenir, et je dis d'ailleurs aux contrôleurs aériens, ne poussez pas le bouchon trop loin, parce que qu'est-ce qui va se passer finalement si on se projette dans 5 ou 10 ans? Plus ils chercheront à être opposés à ce système de modernisation. Plus ils deviendront exigeants en matière de rémunération, plus on développera la technologie pour bien sûr continuer à avoir des contrôleurs aériens, mais avec de moins en moins de fonctions et avec de moins en moins de personnel. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les syndicats ont aussi la responsabilité de motiver les jeunes, de les attirer vers ces métiers. C'est un métier de passion, c'est un métier d'engagement. Soyons tous responsables, regardons l'avenir et arrêtons de passer notre temps à regarder ce qui se passait il y a quelques années, parce que ce passé n'est pas très brillant dans
ça
le domaine.
Ça fait réagir Vincent Gautron, particulièrement quand il parle de prise d'otage des passagers. En gros, des centaines de milliers de passagers qui ne pourront pas voyager.
Excusez-moi, on va revenir sur des éléments qui viennent assez souvent. Comparer des salariés qui défendent leurs intérêts, alors on peut être d'accord ou pas, les comparer à des terroristes, parce qu'un preneur d'otage, c'est un terroriste, c'est simplement inadmissible.
Au-delà du terme, qui est peut-être maladroit. Ce qui veut expliquer, c'est que ça bloque des centaines de milliers de passagers.
Mais ça s'appelle, je suis désolé, mais c'est le modèle social français qui veut ça aujourd'hui, dans la façon qu'a le patronat d'entamer des discussions. Il y a le calendrier, il y a le choix d'avoir à telle ou telle période des négociations. Très souvent, il y a des négociations importantes pour les salariés qui ont lieu, je suis désolé, c'est comme ça, à la veille des vacances. Je ne dis pas que je partage ou que je ne partage pas. Je dis qu'il y a aussi des stratégies d'entreprise de choisir un calendrier bien particulier dans les négociations. Et ça aussi, ça joue. Et donc, il y a peut-être aussi un comportement. Il y a une autre chose. Oui, nous sommes totalement ouverts à la modernisation de l'outil de production et ça. Mm-hmm. Mais pourquoi à chaque fois, la modernisation doit se traduire purement et simplement en perte sèche d'emploi et pas d'accompagnement et d'évolution de certains métiers.
Et
pas simplement des métiers sur, j'entends, il faut du savoir pour faire, etc. Mais aussi des gens qui ont arrêté l'étude, des études qui ne sont pas intéressées par des études supérieures, il y a des choix personnels et qui ont besoin aussi d'avoir accès, des fois, à des emplois peu qualifiés, non qualifiés, ou de se qualifier tout au long de la carrière.
Ceux-là se trouveront plus au sol dans les aéroports que dans la tour de contrôle. Vous avez alerté tout à l'heure sur le stress, la responsabilité de ces contrôleurs aériens. Moi, j'ai plus d'admiration pour le chauffeur de bus de la RATP, parce que là, je trouve qu'il y a un stress extraordinaire. On a un bus de 25 mètres de long, il n'y a pas d'ordinateur qui signale les piétons, les chauffards, les cyclistes qui déboulent, et ça peut faire des dégâts. J'ai plus d'admiration pour eux que pour des contrôleurs aériens qui sont multi-assistés par la technologie. La technologie fait presque tout, et bientôt elle fera tout, et en effet, on aura peut-être moins besoin d'eux, voire plus besoin d'eux. La question se pose même pour les pilotes, c'est vous dire. Donc, pourquoi leur faire cette excuse de la responsabilité alors que d'évidence, ce n'est pas un argument suffisant pour ne travailler que 24 heures par semaine?
Mais il y a la concentration. Enfin, vous savez, non, mais je prends un exemple. Mais il y a des professions, faut essayer pour vivre et ressentir.
Le chauffeur de bus, il n'est pas concentré.
Vous prenez la conduite d'un RER ou autre. On peut considérer que c'est pas dur, voilà. Mais il y a une fatigue physique et psychologique de rester concentré sur une certaine vitesse.
Et le bus encore plus.
Voilà.
Est-ce que vous trouvez du coup dans cette logique-là? Qu'est-ce que vous pensez de l'accord qui a été trouvé pour la SNCF?
Alors justement, l'accord sur les pré-retraites et qui permettrait aux contrôleurs, par exemple, de partir 18 mois avant la fin de carrière.
Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils ont besoin d'être très concentrés, les contrôleurs, dans le train.
Vous êtes en repos et horaire décalé. Donc ça a une incidence. Il y a des études scientifiques, des agences sur la santé au travail.
C'est d'ailleurs le seul métier comme ça.
Non. Mais après, vous avez des entreprises où il y a des corps intermédiaires qui organisent les salariés, des salariés qui décident ou pas. Vous savez, vous avez des usagers qui nous remercient d'être en grève. Pendant la réforme des retraites, il y a des usagers, qui nous ont remerciés. Et il y en a même qui étaient très contents dans Paris.
Mais alors, qu'est-ce que vous pensez de la mesure? La mesure, c'est que les contrôleurs vont pouvoir stopper leur activité 18 mois avant la fin de leur carrière, tout en percevant 75% de leur salaire.
Je vais vous faire une réponse de Normand avec tout le respect que j'ai pour les gens de Normandie. Je vais vous prendre un exemple. La direction de la RATP a ouvert une rupture conventionnelle collective sur 200 postes dans les fonctions support. 100 départs qui considéraient du licenciement, parce que c'est des gens en activité qui partent, et on appelle ça maintenant dans le jargon une aide à la mobilité externe, et 100 départs en retraite anticipée. Et là, c'est la direction, parce qu'elle avait besoin de réduire les effectifs.
Moi, je vous parle de la SNCF. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord? Vous trouvez que c'est une mesure qui est juste?
Mais oui.
Oui,
c'est... Moi, je considère qu'on n'est pas né pour crever. Donc, au travail.
Par rapport aux 21 millions de salariés du privé qui se disent peut-être qu'il y a un deux poids deux mesures.
Mais on n'a jamais. C'est pas parce que la CGT SNCF a signé cet accord qu'ils sont contre que les mêmes dispositions s'appliquent dans le secteur.
Anna Cabana, retraite à 58 ans pour tous. Donc,
vous savez combien de personnes meurent au travail
Je sais surtout qu'on a une pyramide des âges qui ne nous permet pas de le financer. Donc vous êtes.
Non, c'est pas une pyramide des âges qui ne permet pas de le financer.
Ce que je trouve complètement sidérant, c'est qu'on a. Et d'ailleurs, je ne comprends pas le gouvernement. Alors là, c'est incompréhensible. On a fait une réforme des retraites qu'on
annule. Mettez fin au CICE. Pour les emplois qui ne sont pas délocalisables. Je ne partage pas, mais au-delà de là, supprimer le CICE pour les entreprises dont les emplois ne sont pas délocalisables. Je vais revenir à mon entreprise, je suis désolé, mais je suis représentant de la CGT RATP. Le groupe RATP, y compris dans l'entreprise publique, bénéficie du CICE pour les salariés qui sont pas sous statut mais embauchés sous CDI. Est-ce que les emplois de chauffeurs de bus, d'agents de gare et station sont délocalisables mais en dehors de la région parisienne?
Est-ce que je reprends ce que dit Géraldine.
Pardonnez-moi.
Sur la réforme des retraites, si vous voulez, là, c'est pour s'acheter, parce que c'est pas, il n'y a pas d'autre raison, la paix sociale au moment des JO, qui est un moment ponctuel, on prend une mesure pérenne qui va nous coûter à nous de l'argent pour les décennies à venir.
Quand vous dites Géraldine, je ne comprends pas le gouvernement, en fait vous comprenez parfaitement. C'est-à-dire que ce qui joue aujourd'hui, c'est que les syndicats sont en train de prendre une revanche contre Emmanuel Macron, les syndicats qui considèrent, à raison, ne pas avoir été suffisamment écoutés, suffisamment considérés depuis 2017, avoir été piétinés au moment de la réforme des retraites. Et bien là, le moment, et c'est ce qu'ils disent, hein, d'ailleurs Benjamin Hamard était sur le plateau tout à l'heure, donc un des leaders de la CGT, tout sourire, il a dit bah oui, on a le sourire, le moment est favorable et on a l'intention d'en profiter. Et c'est exactement ce qui se joue avec la SNCF, sauf que ça pose un très gros problème au gouvernement, parce que ça donne en effet un coup de canif.
Mais pas qu'au gouvernement, c'est un problème de rupture de contrat social,
ça donne un coup de canif dans la réforme des retraites et on l'a même entendu dans la bouche du secrétaire fédéral de Sudrail, un Sudrail qui signe quand même très 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 rarement des accords. Et bien là, qu'a dit le secrétaire fédéral de
Sudrail?
Il a dit que l'accord permettait de compenser, je cite, hein, les effets néfastes de la réforme des retraites. Et bien là, c'est précisément là-dessus que le gouvernement, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, elle était bien embêtée. Elle a dit qu'elle savait pas trop quels étaient les détails de l'accord et que ça respectait malgré tout l'esprit de la loi. Tu parles.
Merci beaucoup à vous, Vincent Gautron, d'être venu sur ce plateau. Débat animé, mais c'est ça qu'on aime.
C'est un débat.
Voilà. Et merci à Marc Rochet également qui est avec nous à distance.